Shalom tout le monde. Nous allons étudier, bonjour tout le monde, shalom, notre étude a porté sur un sujet qu'une partie d'entre vous connaissent, puisque nous avons étudié ça l'année dernière, mais j'ai dit au Rav Partouche que je m'en fiche pas mal, parce que ce qui est important, c'est les nouveaux. Bon, non, vous pouvez rester, ça va, ne prenez pas la porte. Mais, de plus, il y a quand même un avantage, même pour les anciens, c'est que il y a des choses sur lesquelles il faut revenir. Voilà. Alors, notre étude va porter, comme il se doit, sur la prière. Nous allons avoir une série de cours sur la prière, un des moments les plus importants de la conscience juive, et donc, et de la conscience humaine en général. Et donc, ça sera notre sujet d'étude. Voilà. C'est pour ça que tu fermes. Tu fermes l'enregistrement.
Non,
tu dis ça. Ah bon, d'accord. Bon, alors comme nous l'avons dit avant que l'enregistreur soit allumé, notre sujet d'étude sera la prière. Voilà. Alors, la prière est un sujet difficile, pour tout vous dire. C'est un sujet difficile, d'abord parce que ça pose énormément de problèmes. Et là, je voudrais vous dire tout d'abord les erreurs qu'on fait en général par rapport à cette étude-là. On dit en général n'importe quoi, parce que justement, on ne sait pas trop quoi dire. Je voudrais par exemple l'exemple d'un prof de Kodesh, comme on dit. Il dit, voilà, mes chers élèves, nous allons aujourd'hui étudier la prière. La prière, nous dit le prof de Kodesh, la prière est un mouvement naturel de l'homme. C'est quelque chose de spontané dans l'homme. L'homme veut faire la prière. Voilà. Alors, l'élève, qui est un bon élève, un bon petit bourgeois d'une bonne école juive de Paris, se dit, il est fou. Il est fou. Il pense que la prière, c'est naturel. Si c'est vrai ce qu'il dit, ça veut dire que la première chose qui me vient à l'idée, quand j'ouvre un œil le matin, c'est de me précipiter hors de mon lit pour me ruer avec mes téphilines à la synagogue. N'est-ce pas? Or, je sais très bien que, pas moi, mais mon copain, il a des difficultés à se lever pour la prière. Et qu'il préférerait bien rester sous sa couverture. Non, c'est pas moi, c'est mon ami. Je sais qu'il y a des amis parmi moi qui ont, auprès de moi, qui ont ce genre de difficultés. Donc c'est une erreur. Maintenant, il y a une autre possibilité. C'est un très bon enfant, vraiment comme Agnan dans le petit Nicolas. Il se dit, le prof, il a raison. Pourquoi est-ce qu'il a raison? Parce qu'il est le prof. C'est lui qui sait la vérité. Et donc, je suis fou. Parce que moi, j'ai des difficultés à me lever pour la prière. Et donc, c'est encore plus grave, parce que penser que son maître est fou, c'est déjà un problème. Penser qu'on est soi-même fou, c'est encore pire. La vérité, c'est exactement le contraire, la prière n'est pas naturelle. Rien dans l'être humain ne nous porte naturellement à la prière. Seulement, une fois qu'on a pris contact avec la prière, qu'on en a l'expérience répétée, Vetargilenu betoratecha, tu nous habitues à ta Torah. Dabek libenu sotecha, tu attaches notre cœur à tes mitzvot. Alors ça devient naturel. Comment est-ce que quelque chose qui n'est pas naturel peut devenir naturel? Parce que c'est naturel pour la neshama. La neshama, l'âme. C'est-à-dire, dans mon être conscience, qu'on appelle en hébreu nefesh, du point de vue de la nature, je ne suis pas porté à la prière. Mais du point de vue de la neshama, du point de vue de l'âme, de mon être éthéré, ce que je suis devant à Kadosh Baruch Hu, là-bas c'est naturel. Et plus on fait de prière dans sa vie, plus on a de compréhension de ce que c'est que la prière, l'expérience de la prière, alors on a de plus en plus d'infiltration, si vous voulez, de la neshama dans le nefesh. Alors donc des choses qui nous semblaient au départ tout à fait, c'est fermé la porte, tout à fait non naturelles, deviennent totalement naturel, à tel point que ça fait partie de nous-mêmes, et qu'effectivement, on se rue avec les téphilines hors de son lit pour aller à la synagogue. D'accord ? Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas une évidence. Qu'est-ce qu'il y a ? Top. Maintenant, essayons de voir les choses un peu plus précisément. On se rend compte que dans l'histoire, d'abord, je voudrais faire avec vous un peu d'historique de la prière. Dans l'histoire des hommes, on voit que les premiers des hommes, ceux dont la Torah nous parle d'ailleurs, en tant qu'hommes, ne faisaient pas la prière. Il n'est nulle part question dans la Torah d'une prière de Adam Harishon, ou de Metushelah, ou de Noach, ou de Shem Ve'aever. Tous ces gens-là n'ont pas fait la prière. Oui ? Il a demandé qu'il se sentait un peu seul. Il a dit qu'il se sentait un peu seul. À qui il a dit ça? C'est totalement faux. Totalement faux. Dans la Torah, en tout cas, dans mon texte de la Torah, ce n'est pas écrit. Il y a écrit que Kadosh Baruch Hu a dit qu'il n'était pas bien que l'homme soit seul et qu'il lui a fait une compagne. Il n'a pas dit que Adam Harishon a dit quelque chose. Je ne dis pas ça pour t'embêter, hein. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Pour le Maboul, comme tu dis, c'est vrai, Noach n'a pas prié, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Et effectivement, et donc... Oui, Mathusalem a repoussé le Maboul, c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire par son mérite. Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est le mérite de Mathusalem, ou Metushelah, qui fait que le Maboul a été repoussé de 7 jours, après la mort de Metushelah. Hein, pas de prière du tout. Abraham Elohim, non plus. Ah, voyons. Abraham, je crois qu'il y dit en toutes lettres, Vaït Padlel, Abraham et la Elohim. Et la Gemara dit que c'est Abraham qui a inventé la prière. Hein? Oui, c'est grâce à Abraham qu'on a Shacharit. C'est Abraham qui a inventé cette manière de rencontrer Akadosh Baruch Hu à travers la prière de Shacharit. Et depuis, ça existe. Et puis, Yitzhak, Mincha, et tout le reste. Et Yaakov, Arvit. Mais en tout cas, ça veut dire que la prière n'est pas une chose naturelle. Ce qui est naturel, par contre, et ça, on le voit pendant toute l'histoire, et c'est-à-dire, c'est confirmé également par les historiens, il y avait le sacrifice. Le sacrifice, le korban. Oui, le sacrifice, le korban, c'est ça, disons, quelque chose de spontané dans l'être humain. Et c'est exactement le contraire des intuitions fondamentales de l'homme moderne. Vous demandez à un moderne s'il a envie de faire un sacrifice, il ne va pas à la tête. Est-ce que tu veux venir à la prière? Ça, on peut en parler. C'est exactement quelque chose s'est inversé dans la conscience humaine. Naturellement, l'homme est porté à faire un sacrifice, mais naturellement, l'homme n'est pas porté à faire une prière. Et ça voudrait donc peut-être dire que la prière et le sacrifice, contrairement à une idée reçue, c'est exactement le contraire l'un de l'autre. En quoi? Tout simplement parce que... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais trop vite?
Que je comprenne, parce que la tefila remplace le...
Oui, justement, c'est pour ça que j'ai dit, contrairement à l'opinion commune, la prière, c'est le contraire du sacrifice.
C'est pour ça que j'ai mis ça, parce qu'à l'autre époque,
c'est
comme ça.
Non, 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 je vais expliquer tout de suite pourquoi. Il faut d'abord que j'explique à quoi sert la prière, à quoi sert le sacrifice, et on verra pourquoi c'est le contraire. D'accord? C'est le contraire parce que le sacrifice a pour but de maintenir le monde en bon état. C'est-à-dire, imaginez le monde comme une grande machine. Pour que ça ne rouille pas, il faut huiler. Et puis il faut actionner, il faut brancher, il faut renforcer un écrou, une vis. C'est-à-dire, comment? C'est un truc de... Comment? Oui, absolument, absolument. Dans le sacrifice, il y a cette idée d'équilibre. Justement, ça équilibre le monde, ça fait qu'il n'y a pas de catastrophe. La prière, elle vient demander une transformation du monde, un changement du monde. Alors c'est le contraire. Si vous voulez, le sacrifice est par essence conservateur, et la prière est révolutionnaire. Est-ce qu'on peut faire un parti conservateur et révolutionnaire? Ça n'existe pas. C'est ou l'un ou l'autre. Donc, on voit bien que la prière et le sacrifice sont des opposés. Seulement, ils ont un point en commun. Ça semble en tout cas être un mouvement qui va du bas vers le haut. C'est une similitude. Mais c'est un mouvement inverse. Maintenant, autre chose, tu as certainement fait allusion à la Guémara qui dit que depuis que les sacrifices ont été abolis, la prière remplace les sacrifices. Ah, comment cela est-il possible? Eh bien, tout simplement, pour que la prière puisse remplacer les sacrifices, on a sacrifié la prière. J'entends par là qu'on a fait de la prière quelque chose qui ressemble au sacrifice. On a imposé à la prière deux choses. Un texte fixe et des heures fixes. Ce qui est le contraire de la prière. La prière est originellement spontanée. Elle vient au moment où on sent qu'il faut la faire. Hein? Oui, Hana, ben, quand elle a senti qu'il fallait faire une prière, elle a fait une prière. Mais personne n'a dit à Hana, c'est à telle heure et avec tel texte. C'était pas enveloppé de plastique et posé à l'entrée de la tombe de Rachel avec les kippotes. Non, pas du tout. Alors, il n'y avait pas de fil rouge, ni de porte-clés. Et donc, c'est quelque chose qui a pris la forme du sacrifice, et on va devoir essayer de comprendre, dans l'étude, comment ça marche, pourquoi ça a remplacé vraiment. Oui. Oui, Abraham, il faisait la prière de Shachrit quand il voulait. Non. Abraham rencontrait Akadosh Baruch Hu le matin. C'est sa manière à lui de le rencontrer. Mais ça ne veut pas dire que Abraham a institué de faire la prière tous les matins et qu'il a fait un texte. D'accord? C'est-à-dire, Abraham, c'est le matin. C'est comme ça qu'il est, lui. Son Dieu est un Dieu du matin. Et donc, il y a beaucoup de raisons à ça. Beaucoup de raisons, c'est vrai. Parce qu'Abraham connaît Dieu en tant que créateur et que le matin, j'ai le sentiment d'être créé, je reçois mon être en cadeau. Alors évidemment, pour Abraham, c'est normal que ce soit Shacharit, le moment de la prière. Mais là, on rentre dans une grosse difficulté, et ce que je voudrais étudier avec vous, c'est la difficulté de la prière. Là, j'ai d'abord amené le fait qu'on a constaté que ce n'est pas naturel, d'accord. Mais il y a quelque chose dans la prière qui est, en fait, quasi impossible à l'homme. Il y a quelque chose qui est révoltant dans la prière, du fait même de ce qu'elle représente. Dans la prière, si on prend la définition précise de la Tefila, c'est quand je viens demander à Akadosh Baruch Hu de faire quelque chose, pour moi ou pour les autres, en tout cas, je demande à Akadosh Baruch Hu d'intervenir pour changer l'ordre du monde. Alors, ça ressemble à quoi? D'abord, ça veut dire que je peux parler à Akadosh Baruch Hu, ce qui déjà reste à prouver. Il n'y a rien, disons, déjà, parler à mon voisin, c'est difficile. Quelqu'un qui se trouve à 1 million de kilomètres, c'est impossible. Et si c'est 1 million de kilomètres mental, alors encore plus. Alors vous comprenez, quand il s'agit du Créateur du monde, pouvoir parler au Créateur du monde comme si c'était un proche avec qui je peux avoir un entretien comme ça, il y a quelque chose d'absolument, disons, de fou, quoi. Bon, d'accord. Il peut aussi ne pas vouloir nous entendre. Bon, d'accord. Mais en tout cas, disons, l'idée même qu'on puisse lui parler, c'est quelque chose d'inouï. Deuxièmement, et alors? Oui, le problème, c'est que quand on parle de la divinité, c'est pas, disons, quelque chose de... C'est pas comme une antenne flexible. C'est pas... Disons qu'a priori, il est au sommet de tout être. Et donc le fait qu'il soit partout, ce qui veut... Il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire qu'il est partout, parce que je suis pas sûr du tout que c'est vrai. Ça veut pas dire encore que je peux entretenir avec lui un dialogue. Par exemple, je sais pas, tu sais qu'il y a à côté de toi des souris. Il y a des souris pas loin de toi. Non, n'aie pas peur. Bon. Est-ce que les souris peuvent te parler? Elles sont proches de toi. Tu peux tenir la souris sur la main? Ben non. C'est-à-dire, là, il y a une distance entre toi et la souris qui est énorme, indépendamment de la proximité physique. Alors qu'Alvar Homer a plus de raison quand il s'agit d'Akadosh Baruch Hu. La souris, c'est un exemple. Ça aurait très bien pu être un moustique qui a une crise de mousticisme. Oui. On n'a pas créé la souris, c'est vrai. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais est-ce que, oui, mais il nous a créé, mais il nous a pas créé à sa ressemblance. Nous ne sommes pas comme lui. Imagine, par exemple, que moi j'ai créé, j'ai formé un pot. Un pot. Je suis... Justement, alors qui nous dit que le fait que nous ayons un libre arbitre et une conscience et une connaissance, ça nous permet de nous adresser à celui qui nous a formés? Parce qu'Akadosh Baruch Hu n'est pas réductible à la conscience, à la parole, etc. Donc je dis qu'il y a une première difficulté. Deuxième difficulté, on va essayer d'approfondir un peu les difficultés si vous me permettez. Je viens voir le maître du monde et je lui dis, écoute, j'ai regardé ton monde, c'est pas mal. Je suis assez satisfait. Je considère que non, c'est très joli. Le soleil d'Afka, c'est bien. Ça chauffe, ça bronze, ça fait pousser les plantes, c'est bien. Et puis, oui, j'ai vu également, oui, le magasin de falafel à côté, très bien. Mais, dans tout ça, qui a l'air pas mal du tout, maître du monde, je voudrais te faire une petite remarque. Hein, c'est que Yantel Basgitl est malade. Il faut absolument que tu en occupes. Voilà. Je juge, moi, je pense qu'il faut que Yantel Basgitl, c'est un nom de femme. Oui, ça peut très bien être Yolande Bat Josiane, par exemple. D'accord. Mais c'est un exemple. Hein. Ça peut être aussi un homme. Par exemple, Bébert Ben Georgette, par exemple. Voilà. Ce sont des exemples. Oui. C'est pas un absolu. Hein. Bon. Et donc, je viens dire au Créateur du monde, voilà, je pense que tout ce que tu as fait, c'est très bien, je reconnais que tu as créé tout ça, mais il y a un point qui, à moi, me semble défectueux, et je viens te faire la remarque que tu devrais changer ça. Oui, c'est même plus que ça, c'est de la chutzpah. C'est de la chutzpah, vous vous rendez compte. Vous allez voir Akadosh Baruch Hu pour lui dire ce que vous pensez qu'il doit faire lui. Énorme. Oui, ben, d'accord, c'est la manière, moi, de voir, je veux bien, mais qui te dit que c'est bien? Imagine, par exemple, il y a une femme qui vient voir Akadosh Baruch Hu, qui dit, voilà, Ribono Shel Olam, je suis stérile, je veux avoir un enfant. Mais comment elle sait que c'est bien? Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il a raison d'avoir fait stérile. Peut-être que c'est bien qu'elle n'ait pas d'enfant. C'est vrai qu'elle a une souffrance existentielle, parce que de son point de vue, c'est terrible de ne pas avoir d'enfant. Peut-être que c'est très bien qu'elle n'en ait pas. Oui.
Mais si Dieu a raison de ne pas lui de la faire stérile, elle peut que l'homme restera stérile, mais elle aura essayé de
se... Mais pourquoi essayer? C'est-à-dire, en fait, on pourrait dire a priori, ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait, c'est bien. Vous allez voir un tzaddik, vous lui dites, voilà, monsieur le tzaddik, Georges est malade. Alors le tzaddik, ah, Baruch Hashem. Et alors il dit, mais enfin, je sais que vous avez des entrées là-bas, vous pouvez faire quelque chose. Comment? Que moi je fasse quelque chose? Fasse de shalom. Il a décidé que Georges serait malade. Il faut qu'il laisse malade. Vous voulez entraver l'ordre du monde? D'accord? Il y a un problème dans la tefila. Oui? Vas-y.
Parce que le rat, c'est celui qui a la parole de Dieu. Sur le cas, le rat est forcément d'accord avec ce que Dieu a pensé.
Oui, donc tu vois bien que le rat ou le tzaddik, plus précisément, n'a pas envie de changer. Il ne veut pas faire la prière.
Il va demander à son disciple.
Oui, mais Dafka, c'est pas comme ça qu'on voit dans la Torah. Dans la Torah, on voit le contraire. C'est que, par exemple, Avimelech, lui, il est malade, il demande à Abraham de prier. C'est Abraham qui prie. La Guémara dit que quand quelqu'un est malade chez lui, il faut aller voir le Chacham pour qu'il prie. C'est pas comme ça. Tu comprends? C'est-à-dire, tu as une pédagogie inverse de la Guémara. C'est une pédagogie qui est courante aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, la pédagogie, c'est, écoutez, ah, vous avez un problème. Allez, prenez tous des Tehillim, vous allez faire la prière. On voit que dans la Guémara, c'est pas comme ça que ça marche. C'est le contraire. On va voir le Chacham. Oui? Oui, mais pourquoi, justement? J'essaie d'expliquer pourquoi c'est presque irrationnel, la tefila. Mais qui te dit que tu as un sroute? Et ça aussi, c'est un présupposé. Dire je peux avoir un sroute suffisant pour qu'Akadosh Baruch Hu soit d'accord de changer sa décision. Oui, mais même le Rav Intel, qui est beaucoup plus grand que moi, il est par rapport à Akadosh Baruch Hu, je pense qu'il ne vexe personne, il est tout petit. D'accord? Oui, vas-y.
Si quelqu'un est parti de malade, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien dans sa vie, dans son entourage? Il va voir le parfum parce qu'il essaie de voir, lui qui a plus, on va dire,
une vision plus grande, oui. Ah, ça, je suis tout à fait d'accord. Alors, ça ne fait que renforcer la difficulté. Si effectivement, tu dis qu'il y a une justice dans le monde, donc je suis malade à cause d'un péché ou quelque chose qui ne va pas, etc. D'accord. alors que je fasse teshuva. Pourquoi est-ce que je dois faire la prière?
C'est vrai. Oui. Un moyen aussi plus personnel, plus intime avec Dieu. Donc, on va se sentir proche de Dieu, donc on aura plus de force pour
faire. Alors, dans ce cas-là, on n'a qu'à dire, on n'a qu'à faire des louanges.
Ben, dans la prière, il y a...
Non, mais c'est pas ça. La prière, par définition, si on reprend la définition qu'on a dit au début du cours, ou qu'il s'agit de demander quelque chose, c'est mal placé. C'est pas ça qu'il faudrait dire. Il faudrait faire des teshuvah, ou bien une élévation mystique, ou de la méditation, je sais pas, quelque chose de ce genre. Mais c'est pas ça, la tefila. Dans la tefila, je viens dire à Akadosh Baruch Hu ce qu'il doit faire. Il faut bien comprendre l'énormité de la chose. Oui, mais cette partie, elle sert à la demande. C'est la Gemara dit. On ne peut pas demander si on n'a pas fait de louange. D'accord, mais c'est-à-dire que c'est la prière qui, la prière elle-même, en percée, c'est la demande. Et la louange est un moyen. Elle n'est pas partie intégrante de la tefila. Et donc là, je reviens donc aux difficultés. Pour l'instant, nous avons donc un paquet énorme de difficultés, mais j'en vais en rajouter encore d'autres. Maintenant, si j'arrive vraiment à vous convaincre que la prière est impossible, je vous demande malgré tout de continuer à prier pour l'instant tant qu'on n'a pas achevé l'idée. Je ne sais pas si on pourra finir aujourd'hui, c'est pour ça que je me demande. Mais on... Hein? Mais faites quand même la tefila, d'accord? Mais enfin, si finalement j'arrive pas à vous convaincre de faire la tefila, ben arrêtez. Ça vous fait peur? Bon, fais ce que tu veux, t'es pas obligé d'écouter les rabbins. Bon. Maintenant, je vais aller plus loin. Quand je fais la tefila, j'adresse une prière à Kadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Si j'adresse la prière à quelqu'un d'autre, ça s'appelle quoi? Arvodazara. C'est du polythéisme, c'est du paganisme, c'est péché, n'est-ce pas? C'est péché. On doit faire la prière à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est ce que dit la Mishnah dans Maaseret Avot, quand on fait la prière, « Da lifnemi ata omed », tu dois savoir devant qui tu es. C'est ça? Devant qui tu te tiens. Et c'est une demande, disons, impérative. C'est-à-dire, si je ne sais pas à qui la prière est adressée, je risque de faire de l'arvoda zara. Donc, on ne peut pas faire la prière tant qu'on ne sait pas qui est à Kadosh Baruch Hu. Et comme je ne sais pas qui il est, je ne peux pas faire la prière. Le créateur, c'est un concept. C'est comme si tu me dis, voilà, il y a, par exemple, le maire de la ville. Tu sais qu'il y a un maire dans la ville, mais tu ne le connais pas. Même si tu sais son nom. Justement, il y a un problème, on ne peut pas le définir. Comment on ne peut pas le définir, alors ça pose un problème. Oui? Oui, alors? Oui, mais justement, comme on n'a jamais fini de connaître Akadosh Baruch Hu, donc on ne pourrait jamais faire la prière. Ben oui. Oui, mais tant que je ne le connais pas, je me trompe. Par exemple, voilà, on me dit, voilà, tu vas prendre l'autoroute. Maintenant, il y a plusieurs embranchements. Mais tu essayes. Tu essayes. Après 1000 km, tu vois si ça ne marche pas, tu reviens en arrière. D'accord? C'est pas comme ça que ça marche. Il faut prendre la route, il faut avoir son GPS, ou bien savoir avoir pris la carte. Et tant qu'on l'a pas fait, alors on risque effectivement de faire des bourdes énormes. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle dans la culture générale, il y a la critique de la religion. Vous avez entendu parler de ça? Dans la critique de la religion, on dit que l'expérience religieuse par excellence, la prière, en fait, c'est un bluff. Un bluff. Oui, non, l'opium des peuples, c'est la religion, mais dans l'ensemble, la prière, un problème, parce qu'en fait, je suis persuadé que je parle à Kadosh Baruch Hu, en fait, je règle mes problèmes psychologiques. J'ai un problème avec ma mère, j'ai un problème avec mon employeur, etc.
Bon.
Oui. Ou bien, j'ai un sentiment de culpabilité que j'essaye d'évacuer, ou bien ça peut être simplement un sentiment esthétique. C'est très courant, ça, chez les chrétiens, par exemple, cette idée que la prière, ça serait un moment esthétique, extrêmement beau, etc. Et donc, ça emporte le cœur. Mais c'est pas différent d'un concert. Alors, vous comprenez qu'il faut savoir répondre à ces choses-là. Et donc, il y a un très grand risque dans la prière, en fait, je fasse en vérité n'importe quoi. Voilà. Pour l'instant, j'espère vous avoir convaincu, donc, de ne pas prier. Hein? Pour l'instant, oui. C'est bientôt Mincha.
Mais j'ai pas envie de manquer de respect à Dieu.
Hein?
J'ai pas envie de manquer de respect à Dieu.
Ah oui, c'est vrai, il y a un problème. Effectivement. Or, quand tu fais la prière, tu manques de respect. Comme on l'a dit, c'est de la chutzpah. De dire à Kadosh Baruch Hu, écoute. Ah bon, mais j'aimerais comprendre pourquoi. Trois. Je fais rime trois. Ce qu'il y a. Bon. Oui.
Alors, en même temps, dans la prière, on
lui remercie. Oui, ça remercier, c'est normal. On ne parle pas de ça. On parle de la prière en tant que demande.
Donc en fait, on va partie.
Oui, la partie la plus importante, celle de la demande. Justement, c'est ça un problème, c'est que la Guémara, elle te dit que la prière, c'est la demande. Oui.
Mais nous, quand on demande quelque chose, on se rapproche du projet de Dieu. Si le projet de Dieu, c'est qu'on vit dans ce monde, qu'on dévoile la chair, c'est ça, non?
On dévoile la Torah.
On dévoile la Torah.
D'accord.
Vaut mieux dévoiler la Torah quand on a une bonne santé, on demande à ce que Dieu comprend.
Donc, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a tort d'avoir nous avoir fait malade. Ah bah oui, c'est ce que tu dis.
Bon, mais d'abord, en quoi c'est ne pas régler les problèmes psychologiques?
Bah, si c'est, on peut aller chez un psy pour ça. C'est, j'ai des problèmes psychologiques. Ah bon? Ça dépend lesquels.
Ils s'autopsient,
comme ça il a dit. Bon, ça dépend. Il y a effectivement des Talmidei Chachamim qui ont un don psychologique très fort. Je vais vous révéler un secret. Souvent, ils ont étudié la psychologie. Non, la psychologie ne vient pas de la Torah, c'est une erreur. La philosophie ne vient pas de la Torah, c'est une erreur. La Torah vient de la Torah. Mais la Torah là, vient de la Torah, ça c'est absolument vrai. Mais la Torah s'occupe de Torah. Elle ne s'occupe pas de psychologie, de chimie, de physique, de mathématiques, de politique. C'est ça. Tout cela, il y a des disciplines pour ça. D'accord ? Il ne faut pas inventer. Eh bien, elles viennent de la sagesse humaine, de la sagesse qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à l'homme, de beaucoup de choses. Ça ne vient pas de la Torah. La Torah, elle n'est pas faite pour ça. Par exemple, si j'ai un petit bobo là, je vais voir le docteur. Non, il n'y a pas de rapport, justement. Si j'ai un petit bobo là, je vais voir le docteur. À qui Akadosh Baruch Hu a donné une chorma nécessaire pour me réparer mon petit bobo. D'accord? Maintenant, si je veux voir le rabbin, ou je lui dis, voilà, Kvod Arav, j'ai un petit bobo. Et alors? Bah, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me mettre en pansement. D'accord? Ça n'a rien à voir. Le petit bobo et la Torah. D'ailleurs, j'aimerais bien voir. Vous savez qu'il n'y a eu jamais, par exemple, ni depuis Moshe Rabbeinu jusqu'au Rav David Partouche, il n'y a jamais eu de rabbin qui a appris un élément de médecine de la Torah. Ou de mathématiques. Rambam, non. Rambam était médecin parce qu'il a étudié la médecine. Oui. Rambam était un très grand médecin, il a lu la médecine, les livres d'Hippocrate et de Galien, sur lesquels il a écrit d'ailleurs des commentaires. Hippocrate et Galien n'étaient pas des rabbanim, c'était des Grecs. Oui, des Grecs, parfaitement. Oui. Des goyim. Oui.
De la Torah, on découvre direct la médecine.
C'est faux.
Par exemple, si on faisait partie du jour, aujourd'hui on a prouvé qu'à partir du jour, il y a certaines qui font qu'on peut cicatriser.
Même si tu dis ça, hein. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il nous a dit de faire la circoncision le huitième jour, il a tenu compte d'une donnée qu'il a créée, qui a des éléments coagulants à partir du huitième jour. Mais ça n'a rien à voir, mais les Chachamim ne le savent pas de la Torah, ça. Ça, on le sait par la médecine, et puis on voit, tiens, comme par hasard, c'est vrai, ça marche bien avec ce que dit la Torah. Mais ça n'a rien à voir. C'est pas de là-bas qu'on le sait. Les Chachamim ne savaient pas les coagulants. Bon. Comment? Ça prouve rien du tout. Et s'il n'y avait pas de coagulants le huitième jour, alors on ne ferait pas la circoncision le huitième jour, en fait. Et si les coagulants apparaissaient à partir du cinquième jour, on pourrait faire la circoncision? Non. D'accord? Donc c'est pas de la Torah que nous savons ces choses-là. Et ni ce n'est pas non plus la médecine qui va nous dire comment faire la Torah. Ce sont deux disciplines différentes. Non, c'est faux. C'est pas vrai que tout est écrit dans la Torah. C'est un mensonge que l'on diffuse dans les yeshivot pour convaincre les jeunes gens bien intentionnés de ne pas aller à l'université, puisqu'on dit de toute façon les sagesses sont écrites dans la Torah. Ouais. Merci, c'est vrai que tout est dans la Torah. Donc tout c'est de la Torah. Donc quand je fais des maths, c'est de la Torah. Hein, quand je Gémat, rien, oui. Bon, revenons donc à notre sujet, qui est beaucoup plus important que de vous faire perdre des idées fausses. Il y a ici un petit problème, c'est comment donc je peux m'adresser à Kadosh Baruch Hu dans la Tefila. La prière a l'air d'être quelque chose d'absolument impossible. Vous voulez une réponse à tout ça? Hein, ça vous inquiète hein, quand même. Bon, eh bien, la réponse est très simple. C'est que Akadosh Baruch Hu nous a révélé qu'il voulait qu'on fasse la prière. C'est une révélation. Comme on dit, Tefilat Yesharim Retsono. Taish. Tefilat Yesharim Retsono. C'est la prière des droits. C'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, ça lui fait plaisir. Il veut. C'est-à-dire, il pourrait très bien s'en passer, mais il a voulu que ça passe par nous. Mais attention, il y a quand même des conditions. La première condition, qui est de savoir à qui la prière est adressée. Or, pour savoir qui est Akadosh Baruch Hu, il faut qu'Akadosh Baruch Hu m'ait parlé. Conclusion, seuls les prophètes peuvent faire la prière. Comment ? Non. Parce que le juste, il n'est pas prophète. On peut être juste sans être prophète. Par exemple, le Rav Partouche est injuste. Et il n'est pas prophète. Enfin, j'espère qu'il ne m'en voudra pas d'avoir dit ça. Mais il n'est pas prophète. N'est-ce pas? Donc, mais si je suis logique, si Akadosh Baruch Hu s'est entretenu avec moi, donc je sais qui il est, je le connais, j'ai une connaissance directe, et donc je peux lui adresser une prière. Mais s'il ne m'a pas parlé, je ne peux pas. Conclusion, il n'y a que les prophètes qui ont le droit de faire la prière, ce qu'il fallait démontrer. C'est QFD. Canard qu'il fallait déplumer. Et donc, je vois qu'il ne tient plus. Bon. Oui, ouais, bien sûr. Bon. Et donc, les meilleurs, ce sont celles qui se répètent qui sont les meilleures. Et donc, ça explique maintenant, d'abord, ça, si c'est vrai ce que je vous dis, Ça, c'est exactement le contraire de ce que dit le prof de Kodesh sur la Tefila, quand il dit que c'est quelque chose de naturel. Ben non, justement, c'est quelque chose de quasi blasphématoire, à moins qu'on soit prophète. Donc le prophète n'a pas le devoir de faire la Tefila, le prophète a le droit de faire la Tefila. Ceux qui ne sont pas prophètes, ils n'ont pas le droit. Donc pour l'instant, j'ai un peu réduit, j'ai déjà autorisé les prophètes à faire la Tefila. Ceux qui ne le sont pas, ne peuvent pas encore le faire à ce moment-là du cours, n'est-ce pas?
Et c'est pas possible qu'il ait demandé à un prophète.
Ah, tu peux aller voir le prophète. Le prophète a dit, ça marche.
Non, mais c'est pas possible que Akadosh Baruch Hu ait demandé à un prophète que le prophète demande au peuple de prier.
Oui, ça existe aussi. Mais attention, quelque chose de remarquable. Regarde dans le livre de Shmuel. Dans le Tanakh, il y a un livre, le livre de Shmuel, dans lequel il est question là-bas du prophète Shmuel, français Samuel. Et le peuple demande un roi. Shmuel fait des histoires, finalement il leur donne un roi. Et Shmuel leur dit, mais Dieu n'aime pas ce que vous avez fait, il est en colère. Et la preuve, c'est que bien qu'aujourd'hui on est en plein été, que c'est le moment des récoltes, eh bien la pluie va tomber. Or c'est très mauvais que la pluie tombe avant la récolte, parce que ça fiche en l'air tout le blé. Et alors Shmuel prie, et le tonnerre commence. Le peuple effrayé? Non, justement pas. Le peuple s'adresse à Shmuel et lui dit, de grâce, fais quelque chose, prie Dieu pour qu'il arrête ça. Ils ont demandé, ils ont prié, mais c'est pas une prière, c'est une demande. Une seconde. Non, c'est vrai, la question est bonne. Enfin, ils ont demandé à Shmuel, fais quelque chose, hit palel el Hashem, adresse une prière à Kadosh Baruch Hu pour que ça arrête. Qu'est-ce que répond Shmuel? Shmuel leur répond, Gamani lo eheta l'Hashem levilti hitpalel baratrem. Moi non plus, je ne pécherai pas envers Dieu en ne priant pas pour vous. Et Shmuel fait la prière. Maintenant, vous avez remarqué la réaction pédagogique de Shmuel? Il a réagi d'une manière diamétralement opposée aux pédagogues religieux modernes. Qu'aurait fait le pédagogue religieux moderne? Il aurait pris l'occasion. Il dit, ah, ils ont un éveil. Faisons tous ensemble la prière. Il aurait distribué les Tehillim à tout le monde. Bon, les Tehillim n'étaient pas encore écrits. David n'était pas encore né. Mais enfin, on dit, mais on, il aurait... Le Tikkun HaKlali, il y avait certainement. Déjà, et alors... Non ? Ah, tu crois que c'est... J'essayais quand même de trouver une échappatoire. Bon, pas possible. Bon, en tout cas, vous savez bien. En tout cas, il aurait trouvé quelque chose. Il aurait dit, faisons la prière ensemble. Mais Shmuel savait la vérité. Il savait que comme il était le seul prophète sur le terrain, c'est à lui qu'incombait le devoir de la prière et à personne d'autre. Et si vous regardez systématiquement dans tout le Tanakh, à une seule exception près, à chaque fois qu'il est question que quelqu'un a fait la prière, on parle de la prière en général, mais on dit un tel a prié, c'est toujours, sauf une fois, un prophète. La seule fois où c'est pas un prophète, c'est quand le prophète refuse de prier. C'est dans le livre de Yonah. Dans le livre de Yonah, le prophète refuse de prier, alors les matelots prient à sa place. Hannah, c'est une prophétesse. La preuve, c'est qu'elle a prié. D'ailleurs, la Guémara dit que c'est une des sept prophétesses. Si, ça a marché pour une chose. Ça a marché pour qu'ils ne soient pas condamnés. Il demande à Kadosh Baruch Hu de ne pas leur en vouloir, de le jeter à la mer, celui-là. D'accord ? Et évidemment, la mer se... Rien qu'il le jette, finalement, la mer se calme. Peut-être. Peut-être. Bon, s'il faut analyser le livre de Yonah, oui ? C'est la preuve que c'est une prophétesse. Mais à part ça, la Guémara dit que c'est une prophétesse. Ben si, parce qu'ici, il n'y a que les prophètes qui peuvent prier, et qu'elle prie, c'est donc qu'elle est prophète. Non, c'est le symptôme. C'est le symptôme. C'est, je me demande, voilà, je me promène à l'époque biblique en Eretz Israël, je me demande, où est-ce qu'il y a un prophète? Je vois quelqu'un en train de prier, je dis, ah, tiens, voilà un. D'accord? Alors le problème devient plus grave. Justement, il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de prophète. Mais, c'est vrai, il n'y en a plus. Potentiel, c'est un potentiel. Mais c'est comme par exemple quelqu'un qui dit qu'il a le potentiel de gagner aux Jeux Olympiques en basketball. D'accord, mais il n'a pas fait d'exercice. Il est resté au Beth Amidrash à manger des sandwichs et à étudier la Guémara. Alors, il peut pas gagner aux Jeux. Bien, il a le potentiel, mais il peut pas. Et donc, aujourd'hui, il n'y a plus de prophètes. Mais je reviens sur mon idée antérieure. Les prophètes ont le droit de prier. Il n'y a que eux qui peuvent le faire. D'ailleurs, la première fois qu'apparaît le mot prière dans la Torah, c'est dans le verset où pour la première fois apparaît le mot prophète. Vous avez remarqué ça? C'est écrit dans la Torah. C'est écrit Ve'ata Hashem Eshetaish Kinavihu Ve'itpalel Ba'atra. Rends la femme de cet homme parce qu'il est prophète et qu'il priera pour toi. La Torah a mis en parallèle prière et prophète. En tout cas, le fait que la prière est exaucée. D'accord ? C'est-à-dire que nous sommes bien embêtés alors, dans ce cas-là. Mais alors, je vais vous dire la vérité. Ce que je vous dis, c'est écrit noir sur blanc dans le Shulchan Aruch. Hein, Shulchan Aruch, livre récent. Combien ? 450 ans. C'est proche de nous. Eh bien, ouais, c'est ça, comme hier. Tu as connu l'auteur? Bon, en tout cas... Oui, Rabbi Yosef Kahn. Oui. Ouais. Hein? Ton voisin, oui, dans ton dernier Gilgoul. En tout cas, ouais, c'est-à-dire quand tu veillais à lui, quand il était malade, tu te tenais à carreau. Donc, Rabbi Yosef Kahn, dans le Shulchan Aruch, écrit en toutes lettres ce que je vous dis. Il le dit noir sur blanc. Je vais vous lire le texte. C'est dans le Shulchan Aruch. Vous voyez ici, à Mishnah Berurah, par hasard, premier volume. Aleph, il faut le Aleph, c'est ça ? Très bien. Zak Baruch. C'est Tzadik Ret. On nous raconte ici l'introduction. Qu'est-ce qu'il faut ? C'est Tzadik Ret. De ce qu'il faut avoir de la kavana quand on fait la prière, et ça comporte cinq paragraphes. Le premier paragraphe nous dit Amit Palel, celui qui prie, Tsarir Sheikhaven Belibo Pirush Amilot Shemotsi Bisfatav, doit avoir dans l'intention de son cœur le sens des mots qu'il dit. C'est-à-dire, je dois savoir ce que ça veut dire les mots que je dis. Par exemple, je dis Refaenu Hashem Venerafe, je dois savoir que ça veut dire guéris-nous. D'accord ? Ve'achshov ke'ilu shechina kenegdo. Il doit penser comme si la shechina était face à lui. Problème. Qui c'est qui connaît la shechina ?
Les prophètes.
Donc il y a une première difficulté. Moi je ne connais pas la shechina et je dois m'imaginer qu'elle est devant moi. Je ne sais pas qui elle est. Bon. Hein ? Ruach HaKodesh, c'est pas loin. C'est dans la même, dans la même section. Mais si on appelle Ruach HaKodesh. Je crois qu'on aurait décrit pour tout le monde. Bon. Ve'asir kol ha'marshavot atordot oto. Il doit éloigner de lui toutes les pensées qui le troublent. Ad she'tisher marshavto ve'chavanato zaka bitfilato. De sorte que son intention, sa pensée, soit pure dans sa prière. Ve'archov. Ki ilu aya medaber lifne melech basar vadam. Aya mesader dvara v'chaven v'ayem yafe leval dikashem. Il doit penser que s'il parlait devant un roi de chair et de sang, il ferait attention à ce qu'il dit, pour ne pas trébucher. Kalvachomer a plus forte raison. Lifne melech malchei ha-melachim akadosh baruch hu, devant le roi des rois des rois, le saint béni soit-il, Shehu choker kol marshavot, qui investigue toutes les pensées. Donc ça c'est la halakha. C'est ce que je dois ressentir au moment de la tefila. Alors il y a déjà une première difficulté, je suis devant Dieu, mais il faut que je sois devant lui. C'est comme ça que faisaient les hommes pieux et les hommes d'action, Shayu mitbodedim, qui s'isolaient. Itbodedut. Ou mechavnim bitfilatam, et avaient l'intention dans leur prière, ad shayu magiim litpashtut agashmiyut, au point de se libérer de leur enveloppe corporelle. C'est intéressant, je prends en haut. Ou leit gabrut koach asirli, et le renforcement de la puissance intellectuelle, ad sheayu magim, jusqu'à ce qu'ils arrivaient, karov, proche, les ma'alat anevoa, du niveau des prophètes. Donc, du point de vue de la halakha, je ne peux prier que si je suis arrivé proche du niveau des prophètes. Maintenant, un petit problème. Pour savoir que je suis proche de quelque chose, il faut avoir au moins une fois été là-bas. Conclusion, on ne peut prier que si on a été au moins une fois dans sa vie prophète. Halakha dans le Shulchan Aruch. Alors tous ceux qui ne sont pas prophètes peuvent aller se rhabiller. Oui, vas-y, tu veux dire quelque chose ? Oui. Très bonne question.
Donc, si j'ai besoin de quelque chose, j'ai un problème.
Oui. Donc, je suis troublé par ça. Oui, effectivement. Non, il y a quelque chose qui va. Non, bien sûr. La question est géniale. C'est-à-dire, si je fais la prière, je reprends ta question. Si je fais la prière, c'est quelque chose qui me trouble. Il me manque quelque chose, ça me trouble. Et on me dit, pour faire la prière, il ne faut pas être troublé. Ça va pas. Ça veut dire qu'en fait, il faut être troublé, arrêter d'être troublé, et alors prier pour la chose qui nous a troublé. C'est tout un travail. D'accord ? Non, ça veut dire que je dois penser uniquement à la prière. C'est-à-dire, je dois savoir que je suis devant Kadosh Baruch Hu pour lui demander quelque chose. Mais je ne dois pas penser que j'ai aussi un bus dans 20 minutes.
Ouais, mais là, en plus, on va être troublé parce que c'est pas dans mon prière.
Quoi ?
Oui,
on n'y est pas encore arrivé. D'accord ? Mais en tout cas, je vais vous révéler un secret. J'ai vu qu'il y a des juifs qui font la prière. Il y a des juifs qui font la prière, j'en ai vu. Mais non, je veux dire, d'abord, c'est pas si simple. Il y a très peu de gens qui font la prière. Mais même parmi ceux qui font la prière, il y en a parmi eux, parmi ceux qui font la prière, eh bien, il y en a qui prient. Et, oui, moi, j'espère que c'était la prière. Très bien, très bien, très bien. Merci. C'est un témoignage important. Et donc, Comment se fait-il qu'il y a des Ilchot Tefila? Le Shulchan Aruch, il est écrit pour la génération qui est après les prophètes. Comment se fait-il que nous pouvons quand même prier? D'accord? Jusque là, vous avez compris. Ouais. Il y a une réponse. Est-ce que je vous la donne aujourd'hui? Oui, je vais vous la donner. La réponse est que la prière que nous faisons aujourd'hui a été instituée par qui? Par les derniers prophètes. Les hommes de la grande assemblée, la Gemara rajoute à ce propos, Uvahem Kamanevim, parmi lesquels il y avait encore des prophètes, d'après le Talmud de Jérusalem, parmi lesquels il y avait 83 prophètes sur les 120. 83 prophètes dans une assemblée de 120 personnes, c'est électrique, hein. Vous touchez là, hein, bon, hein. Oui, les autres, ils doivent avoir. Enfin, ils n'étaient pas loin, quoi, en tout cas. Parce que, ouais, en tout cas, peut-être qu'ils étaient là justement pour mettre un peu d'ordre. En résumé, 83 prophètes à la fois, bon, ça doit faire un tollé général. Hein? Quoi, les prophètes? Bah, si les rabbins sont en désaccord, à plus forte raison les prophètes. Hein? Oui, mais enfin, bon, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la prophétie. Qu'est-ce que c'est exactement la prophétie? Comment ça fonctionne? Comment? Majorité, oui, le parti des prophètes l'a emporté encore une fois. Bon, en tout cas, où est-ce qu'on en était? Ah oui, oui, la réponse, oui. Donc, à la vérité, c'est que j'avais un jeu de mots que j'ai oublié et que je cherchais tout le temps. Mais c'est pas grave, ça reviendra plus tard. Et donc, la réponse est que les prières ont été écrites, elles ont été formulées par les derniers des prophètes. Pourquoi est-ce que les prophètes ont fait ça? Les prophètes se sont rendus compte que la prophétie allait s'arrêter. Et donc que le monde allait passer dans un autre moment de son histoire. Et ils ont compris que si c'était comme ça, la prière deviendrait impossible. Alors, ils ont rédigé un texte assez court, le Shmona Esrei, dans lequel ils ont introduit tout leur univers. Toute la manière de vivre et de penser des prophètes a été concentrée dans ce texte. De sorte que quand je prie en, disons, je prophétise un peu. C'est-à-dire, la mitzvah de prier, c'est la mitzvah de prophétiser 3 fois par jour. Mais non, nous faisons semblant. Mais en faisant semblant, eh bien, nous sommes un petit peu humidifiés par ça. Quelque chose de cela s'éveille en nous. Et donc, nous disons à Kadosh Baruch Hu, nous ne te connaissons pas, mais nous savons que tu nous as parlé, que tu as parlé à nos ancêtres, tu as parlé à nos prophètes. Eh bien, c'est en se basant sur leur expérience que nous nous adressons à toi. D'accord? C'est d'où l'importance du texte de la Tefila, une importance absolument gigantesque. Si on n'avait plus ce texte, eh bien, on pourrait plus prier. Oui. Dieu ne veut pas la mort des hommes. Or, de même que quand quelqu'un ne sent plus le besoin de s'alimenter, alors on lui met une perfusion artificielle. Quand l'homme ne veut plus alimenter sa neshama, eh bien on lui met une perfusion de neshama. C'est la tefila avec le texte. C'est-à-dire, les prophètes ont veillé à ce que nous ne soyons pas totalement détachés de leur expérience. Alors évidemment, ça se passe de deux... Maintenant, la vie du juif, donc, est divisée en deux parties. Il y a la prière, il y a l'étude. La prière, c'est une expérience, et l'étude, c'est une connaissance. On étudie. De l'expérience des prophètes. C'est-à-dire, les prophètes ont vécu à une époque révolue. Il n'y a plus de prophètes, il y en aura bientôt, Inch'Allah. Mais, pour l'instant, il n'y en a pas. Comme il n'y en a pas, on vit dans un monde sans la présence directe de la Shekhina. La présence de Dieu est une foi, mais ce n'est pas quelque chose qui est vécu. Nous le savons, mais nous ne le vivons pas. Tandis qu'à l'époque des prophètes, c'était vécu. Et donc, ils savaient comment parler. Et nous servons du texte des prophètes pour adresser notre prière à Kadosh Baruch Hu. Ce qui fait que je peux intuitivement comprendre ce qui manque dans le monde et savoir si la chose que je demande a un sens ou pas, surtout si elle est demandée dans le contexte de la prière des prophètes. On avait dit qu'il était difficile de savoir si ce que je demande doit être demandé. Une femme stérile qui demande un enfant. Si elle le demande, stam comme ça, on ne sait pas si c'était bien ou pas de le demander. Mais si elle l'a demandé au sein de la prière, dans le cadre de la prière de Réphaénou, qui est insérée dans l'ensemble des prières des prophètes, alors elle peut savoir si c'est justifié ou pas. Il y a par exemple dans la Mishnah, on nous raconte l'histoire d'un Tana, de très grande ampleur, il s'agit de Rabbi Hanina ben Dosa. Rabbi Hanina ben Dosa, la Guémara a dit que quand il faisait la prière sur les malades, il savait si le malade allait vivre ou pas. Et ça dépendait de la manière dont il avait prié. Il savait, si ça a été facile, la prière est passée de manière fluide, il sait qu'il vivra. Sinon, non. C'est-à-dire qu'on lui a fait comprendre, par en haut, écoute, celui-là, il ne faut pas prier pour lui. D'accord ? Et la Guémara raconte qu'on lui a demandé, non, la Mishnah dit, que ses élèves lui ont demandé, est-ce que tu es prophète ? Naviata. Ça veut donc dire que les Chachamim comprenaient qu'il y a un rapport entre le prophète et la prière. Et il leur a répondu qu'il n'était pas prophète, mais qu'il a reçu ça de ses ancêtres. Mekoubal anim rabotai. Mekoubal, c'est le mot qu'on emploie en hébreu moderne pour dire kabbaliste. C'est-à-dire, je suis kabbaliste, c'est-à-dire, je ne suis plus un prophète, je suis une dérivée du prophète. D'accord ? Voilà, ben c'est tout pour aujourd'hui, shalom.